Attention, attention, le podcast des petites frousses y contient des propos qui conviennent pas à tous. On va faire parfois des références à de la violence, des termes vulgaires et des sujets qui peuvent être perturbants pour certains. C'est à votre discrétion.
Ben rebonjour à tous!
Bonsoir! Bonsoir.
On est là pour quoi, vous pensez?
Ben pour la part 2!
Yes, sir, Muller.
Ça m'a pris tout mon petit change pour pas aller googler, checker Netflix.
Moi aussi, ça m'a gossé.
Ben merci beaucoup d'avoir toffé jusqu'à maintenant pour qu'on l'enregistre puis que je finisse de vous raconter l'histoire. Voulez-vous qu'on se fasse un petit récapitulatif?
Je pense que ça serait bon.
Ben, ça serait pas pire,
je pense
OK?
Que ça serait bon.
Mais pour vous préparer, avant tout, c'est que dans cet épisode-là, il va y avoir vraiment beaucoup plus d'informations par rapport à ce qui s'est passé. Il va y avoir beaucoup de nouveaux personnages qui vont faire leur apparition. Je parle comme si c'était Game of Thrones, mais non. Et dans la première partie...
Oui.
Dans la première partie, je vous ai raconté l'histoire d'un livreur de pizza nommé Brian Wells qui est parti faire une livraison l'après-midi du 28 août 2003, puis à peine une heure plus tard, il était en train de braquer une banque avec un colis explosif autour du cou, puis une canne qui était en vérité un fusil à pompe. Après s'être fait interpeller par la police, le dispositif explose, tuant Brian. Les polices ont découvert que Brian était au beau milieu d'une chasse au trésor sadique au moment de sa mort. L'enquête est à sèche, Robert Pinetti, un collègue de Brian, s'est fait interroger, mais celui-ci décède d'une overdose. Dans la première partie, on s'est quitté assez abruptement, si vous vous rappelez bien. Je vous parlais que cette histoire-là n'aurait jamais pris la tournure qu'elle a prise si la police n'avait pas reçu un appel téléphonique. Celui de William Rothstein, que je vais appeler Bill. C'était un homme de 59 ans qui a appelé la police le 20 septembre 2003, trois semaines après le décès de Brian Wells, où il disait qu'au 8645 rue Peach, dans le garage, il y a un corps dans le congélateur. Puis l'adresse qu'il avait donnée, c'était la sienne, celle de Bill Rothstein. Puis là, on repart de là. Parce que là, on avait émis des hypothèses. Ben, pas tant. On n'avait pas tant d'hypothèses.
Non.
Vous étiez un peu bafoué.
Ben, ça m'avait cancellé, moi.
On se laisse les portes ouvertes.
Ben, c'est bien. Alors, on y va. Quand il a appelé, il a expliqué que la raison pourquoi ce corps-là était chez eux, c'était pour rendre service à une amie.
Ah!
Il y a des... Moi, je...
Appelle-moi, je vais te faire ça.
Hey.
N'importe quand.
Il y en a qui ont la misère à avoir genre du monde pour les aider pour déménager, puis lui, quand je décroche Jésus. En tout cas, l'ami en question, c'était une femme qui s'appelle Marjorie Deal Armstrong, 54 ans. Puis la personne morte dans le congélateur, c'était son chum à elle, James Roden, 45 ans. Bill, il a accepté d'aider Marjorie parce qu'il disait se sentir mal pour elle.
Aïe, aïe.
Ouais. Bill disait qu'il pouvait plus vivre avec ça sur la conscience, surtout après que Marjorie lui a demandé de déchiqueter le corps avec un hachoir à viande.
Ouais, là, Chris, il y a des limites, là.
Ouais.
Cache un corps, mais là, le défaire... Ça pousse un peu, ça.
Ben oui, elle pousse ça. Oui, définitivement.
Ça va les faveurs.
Fait qu'à cause de ça, il avait atteint sa limite. Il a décidé que c'était soit tout avouer à la police ou mettre fin à ses jours. Bill disait qu'elle, Marjorie, aurait tué James Roden avec un fusil de chasse le 13 août, 6 semaines plus tôt. C'est à ce moment-là que Marjorie aurait demandé de l'aide à Bill. Ces deux-là, Marjorie et Bill, ils avaient tous les deux été en couple dans les années 70, puis ils avaient même déjà été fiancés. Puis malgré le fait que ça faisait longtemps que leur relation s'était terminée, Bill était complètement sous son emprise. Je vais vous faire une description de Bill en tant que personne. C'est un monsieur de à peu près 60 ans, portait toujours des salopettes, puis dans la poche de ses salopettes, ça n'a pas rapport, là, mais il y avait toujours comme 1000 stylos. Là. Il y avait tout le temps plein de stylos dans ses poches. C'était un monsieur qui était excentrique. Bill venait d'une famille riche, mais l'argent s'était épuisé au fil des années. Il était vraiment condescendant. Il pensait vraiment être plus intelligent que tout le monde autour de lui. Il était brillant. Il parlait trois langues, mais il se prenait vraiment pour un autre.
Joe connaissant.
Un Bill connaissant. Bill Rothstein, il se fait interroger. Pendant ce temps-là, des enquêteurs vont fouiller sa maison. Ben, l'adresse qu'il avait donnée, qu'il avait eu le corps. Mais la maison, c'est un vrai dépotoir. Il y avait du stock partout. Il n'y avait pas un mètre carré sans avoir quelque chose qui traînait. Au point où c'était difficile de se déplacer dans la maison, puis c'était sale. Vous rappelez-vous, dans la première partie, on a parlé de le profil que le FBI avait fait. Ah, je vous dis ça de même.
On fait des liens.
On connecte les points.
Les petits détectives.
Colombo, esti.
Finalement, les enquêteurs trouvent le corps. Tout concordait avec ce que Bill avait dit. Le corps était dans le congélateur. Fait que là, ils ont dit, bon, ben la prochaine étape, c'est d'aller voir la fille qui aurait tué l'homme en question dans le congélateur, qui est Marjorie. Marjorie Deal Armstrong, ça, c'est un autre phénomène. Tout le monde connaît Carol Baskin, qui est dans Tiger King, le documentaire qui a fait fureur au début de la pandémie. C'est elle, mais avec les cheveux noirs.
Ah.
Moi, c'est vraiment... Moi, je trouve tellement qu'ils se ressemblent. Puis Marjorie Deal Armstrong, elle a les yeux fous dans la tête, là. Elle a un regard, là.
Elle a le crazy eye.
Crazy eye, elle l'empère. Donc, Marjorie, c'est une femme tellement intelligente, puis c'est le mot que tout le monde utilisait pour la décrire. Elle avait toujours été une première de classe. Elle avait un diplôme en éducation et en sociologie. C'est pas rien, là. C'était une musicienne incroyable. C'était vraiment une enfant prodige, puis elle avait un magnétisme puissant, surtout envers Bill. Cette femme-là, elle avait tout pour elle, mais la maladie mentale a pris le dessus. Elle était bipolaire, manico-dépressive, elle avait un trouble de personnalité narcissique et plus encore. Puis avec les années, la femme séduisante qu'elle était et pleine d'avenir s'est métamorphosée en une femme troublée.
Qui ressemble à Carole Baskin.
Oui.
Mais on voit quand même se dessiner le groupe du Hurluberlu qui aurait fait ça, dans le fond, là, t'sais.
Salopette, yeux fous. Marjorie avait un lourd, lourd passé relationnel. Son premier mari s'était suicidé après qu'elle l'ait quitté. Son deuxième mari, Richard Armstrong, est mort après être tombé, s'être frappé la tête sur leur table à café. Marjorie a poursuivi l'hôpital où il a été soigné Richard Armstrong pour négligence, puis elle a eu un petit arrangement de 175 000 $. C'est pas gênant.
OK, mais attends, là, il est pas mort en se fracassant la tête?
Mais il est allé à l'hôpital après, puis okay. Elle a comme mis le dos sur l'hôpital qui était mort, dans le fond.
OK.
Il est pas mort sur le coup. En 1984, Marjorie a tué son chum, Robert Thomas, par balle. Elle l'avait tué avec 6 balles, puis quand elle tirait dessus, ben elle y était assise.
Comment qu'elle s'en est sortie, celui qu'elle a tué par balle? Il me semble que c'est
parce qu'elle a été acquittée, parce qu'elle a dit que c'était il abattait. Fait que, OK, c'est de la légitime défense.
Hey boy.
Ouais. On sait jamais, ça arrive des histoires de même. Là, dans son cas, je pense
pas. Aux States, là, t'es pas pareil, là, les guns, puis tout.
Ouais, c'est vrai.
Plus lousses, ouais, j'avoue, c'est vrai.
C'est ça.
Bon point.
Puis finalement, son dernier chum, James Roden. Fait que là, ça fait 4 de ses ex qui sont morts.
Mm-hmm. Puis elle s'en éclairait à chaque fois?
Ouais. Mm. Mais là, avec James Roden, je pense pas que ça s'est gazé. Fait que ça paraît mal. Non, peu importe, 4 de tes ex qui sont décédés, ça paraît mal. Mais on revient en 2003, où Marjorie, ben, elle s'est fait arrêter pour le meurtre de James Roden. Parce que là, le corps est dans le congélateur, ils l'ont trouvé, blablabla. Pendant qu'elle se fait arrêter, là, pendant qu'elle se met les menottes, là, elle nie tout. Elle arrête pas de chialer, elle se parle toute seule, elle dit qu'elle va poursuivre Bill Rothstein parce que c'est lui qui l'a stoulé, puis elle dit que c'est lui, Bill, qui a tué James, pas elle.
Oh.
Là, elle met le blâme sur l'autre. Mais à cause de sa coopération, Bill Rothstein, il est libéré sous caution. Là, vous vous dites sûrement, what the fuck, le rapport entre Bill, le corps chez eux, puis Brian Wells.
Ouais, mais c'est ça, ouais. On est ça rendu complètement ailleurs. Là.
On est complètement ailleurs, c'est comme histoire. Deux cas, mais sont c'est tout ça. Est connecté.
Les c'est pas vrai, parce que, tu sais, comme on disait, là, c'est le profil de monde qui aurait, oui. Qui pensait qu'il aurait fait ça. Puis là, sont deux, nous, comme il disait, là, il utilisait nous. Il y a quand même une connexion, mais t'es très faible, très faible.
Sont-tu dans le même quartier, genre?
Mais oui, Bill Rothstein habitait à côté de la tour radio. La commande de pizza
voilà.
De Brian Wells a été livrée. C'était 5 minutes à pied. Parce qu'il y avait comme, pour se rendre à la tour radio, c'était un petit chemin de terre qui était juste à côté de la cour de Bill. Mm-hmm. Tu comprends? Puis sa cour à Bill avait même été fouillée par le FBI dans l'enquête sur la mort de Brian Wells. Puis le corps de James Roden était dans le congélateur à ce moment-là. Il y avait le corps dans le congélateur pendant que le FBI fouillait sa cour.
Et le
pas
gars,
stressé,
il
le gars, là.
Ben,
il est condescendant as fuck.
Ouais,
fait qu'il s'en est foutu, là. Parce que James Roden a été tué 3 semaines avant le cambriolage. Mais ça, c'est circonstanciel. Ça prouve pas tout. La maison où le corps de James Roden a été trouvé, c'était la maison de Bill, comme on s'est dit plus tôt. Mais c'est la maison de ses parents. Mais là, c'était rendu à Bill. Il habitait là depuis le décès de ses parents. Son frère et sa sœur voulaient que la maison où est-ce que Bill habitait soit mise en vente. Parce qu'il voulait aussi bénéficier de la propriété. Mais Bill, il voulait pas. Ce que Bill a fait, il a dit « OK, d'abord, je vais mettre la maison à vente, tu sais. » Puis là, il dit à sa famille qu'il la vendait pour 90 000, mais en réalité, il l'a mise en vente pour 250 000. Un prix vraiment trop cher pour la maison.
Il a mis cher pour pas la vendre.
Exact. Puis ça, il le savait. Là, ça a l'air vraiment par rapport à ce que je vous dis, sauf que c'est le même montant que Brian Wells demandait sur le papier à la banque. C'est exactement le même montant. Puis tout ça, aussi bizarre, puis peut-être aucunement relié, vous allez me dire, c'est quand même arrivé dans la même période de temps. Les enquêteurs ont jugé que le meurtre de James Roden avait été commis à la maison de Marjorie. Ils se sont rendus pour examiner, puis sa maison à elle est encore pire que celle de Bill. Il y avait des montagnes de cochonneries, des déchets empilés, des excréments. Ils ont trouvé 2 chats morts.
Hey!
Il a fallu que les policiers portent des habits de protection style hazmat suit, COVID 2020, là. Ou genre comme dans Gloria Ramirez, pour ceux qui ont écouté l'épisode 1. Très bon épisode en passant.
Parce qu'ils l'ont tous écouté.
Là-bas, Bill était présent pour leur montrer la scène du crime puis reproduire les événements. Pendant ce temps-là, Marjorie était genre en prison. Il était tellement jovial à propos de tout ça, là. Genre, voilà le corps, c'est là qu'il était. Puis là, il y avait des traces de sang là. Puis là, je suis allée là-bas. Puis là, il m'a dit ça. Puis c'est comme si il racontait sa fin de semaine de chasse à ses chums-là.
Ouais.
Tu vois bien que le gars, il est complètement déconnecté. Après ça, ils sont tous allés à la maison de Bill. Puis il explique comment il s'est débarrassé de l'arme à feu qui a tué James Roden en la faisant fondre avec un chalumeau. Fait que là, oh, le gars, Il se débrouillard.
Ouais, ouais, Emmanuel, il a pensé à des affaires.
Encore là.
Encore, ouais.
Ça fit le profil. En même temps, Bill décide de montrer au policier sa lettre de suicide. Parce que comme j'ai mentionné plus tôt, il disait soit que j'en parle à la police, soit je me fais à mes jours. Fait qu'il leur montre la lettre de suicide. La note était de 3 pages, dont une qui était adressée à la police. Puis la première phrase de la note de suicide disait « Ceci n'a rien à voir avec l'affaire de Brian Wells. »
Ah, si tu voulais pas qu'il fasse le lien, ça va être tough.
La raison qu'il a donnée, c'est qu'il voulait pas que la police pense « Ah, oh, c'est un suicide, ça doit être en rapport avec Brian Wells. » Mais genre, son explication fait aucun sens parce que ça crée exactement l'effet contraire,
ouais,
comme tu viens
ça,
de dire.
C'est pas...
Fait que c'est son explication, puis tu sais, encore une fois, il a dit, ah, oh, il l'a dit tellement nonchalamment, là. Je sais pas si nonchalamment, c'est un terme.
Je pense que oui.
C'est bon.
Présentement, ça va l'être.
Le FBI a fait des liens par rapport à l'histoire avec Brian Wells, puis tout. Fait que Bill Rossin a passé un détecteur de mensonges, puis il a passé. Mais Jerry Clark, le chic type, là, que je vous parlais dans la première partie, qui était le chef de l'enquête sur l'affaire de Brian Wells, il était sûr que Bill était assez intelligent pour tricher. Parce qu'il y a des trucs qui sont pour ça, là, des affaires de respiration, puis pour tricher un détecteur de mensonges, mm-hmm. ça se fait. Mm-hmm. Mais c'est ça. Jerry Clark était sûr que c'est ça que Bill avait fait. Marjorie, elle était toujours super en calvaire d'être enfermée en prison. Fait que ce qu'elle faisait, elle faisait juste ouvrir sa trappe. Souvent, elle disait du gros n'importe quoi en essayant de se sauver le cul. Mais d'autres fois, elle disait des choses assez pertinentes qui pouvaient ouvrir une piste. Dont une fois, où elle a parlé d'un dude qui habitait chez Bill. L'homme s'appelait Floyd Stockton. C'est un petit nouveau personnage. Lui, il se cachait de la police chez Bill parce qu'il était recherché dans un autre état pour un viol qu'il avait commis sur une adolescente à mobilité réduite. Lui, on peut le dire tous ensemble.
C'est un crotté.
C'est un tout croche.
Fait que là, Bill, il cachait Floyd chez eux.
Exactement. Mais l'affaire weird avec Floyd, c'est qu'il est parti de chez Bill le lendemain du vol de banque. Le FBI a réussi à le retracer. Ils l'ont interrogé, il a dit que c'est rien, il a passé le détecteur de mensonges. Après ça, Bill Rostin et Floyd Stockton ont été rayés de la liste des suspects dans l'affaire de Brian Wells. Marjorie, toujours en prison, elle faisait face à des chefs d'accusation de meurtre pour le meurtre de James Roden. Quelques mois après, en hiver 2003, Bill Rostin a reçu un deal, encore une fois, pour sa bonne coopération pour l'affaire de James Roden. Il y a comme 2 enquêtes en même temps avec le même monde. Là. C'est quand même assez, hein, quand même assez fucké. Bill Rostin devrait faire quand même quelques années en détention à cause de la maltraitance d'un cadavre, parce qu'ils l'ont comme mis en... James Roden en position fœtale dans le congélateur.
Ouais, il est complice, là.
Il l'a pas tué, mais il a quand même pas fait du bien. Il a été libre sous conscience jusqu'à sa sentence en automne 2004. En juillet 2004, Bill Rostin est admis à l'hôpital. Il souffrait d'un cancer du système lymphatique. Jerry Clark, le chef de l'enquête du FBI, est allé le voir à l'hôpital sur son lit de mort pour lui demander une dernière fois s'il avait quelque chose à déclarer sur Brian Wells. Puis, Bill Rostin était vraiment malade, puis il était pas capable de parler. Fait qu'il a juste fait signe des lettres N-O.
Okay.
C'est non. Dans les heures. Il est décédé à la fin du mois de juillet, puis a emporté beaucoup de secrets dans la tombe.
Ouh.
En 2005, il reste du monde, là. Il y a Marjorie D. Armstrong, a été condamnée pour 20 ans de prison pour James Roden. Malgré tout, elle nie l'avoir tué. Ce qui fait que ce cas-là est aussi poignant, c'est que malgré qu'on ait une bonne idée des coupables et des motifs, personne n'est emprisonné ou a été porté devant un juge pour le meurtre de Brian Wells. D'un sens, l'affaire est irrésolue.
Genre, à ce jour, là?
À ce jour.
OK, y a personne... on sait pas c'est qui.
Fait que c'est comme moi, il n'y a pas de conclusion. Ben, c'est juste c'est pas résolu. On ignore qui a eu quel rôle, qui a tapé les lettres, qui a fait la bombe, puis pourquoi.
OK,
on a des idées, mais il n'y a rien qui a été fait. C'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. Vous allez voir. Fait que là, je vais présenter un peu des théories, des suspects, des potentiels motifs. Cette partie-là, ben, on a du stock. Il y a des nouvelles informations aussi, mais ça commence à se dérouler. À l'été 2005, 2 ans après le cambriolage, un témoin dit que le jour de la mort de Brian Wells, il était sur l'autoroute pas loin de la banque. Puis ce gars-là a vu une auto or qui roulait au bout sur l'accotement de l'autoroute, dans mauvaise direction. L'auto le dépasse, il regarde, c'est une femme. Puis il remarque que la femme, elle a une paire de yeux fucked up. C'était Marjorie.
On va la googler, la petite Marjo.
Elle a une paire de yeux de quelqu'un qui a l'air d'être sur le bord de la chumouille, mais les yeux ouverts. Tu comprends? Marjorie, toujours en prison, ben ils sont allés demander. T'étais-tu là, sur l'autoroute, en train de rouler à l'envers du trafic, tu sais? Elle dit oui, mais elle se souvient pas. elle se souvient pas où est-ce qu'elle s'en allait, mais elle dit non, je sais pas où que je m'en allais, mais ça avait rien à voir avec le cambriolage, OK? Un autre témoin, un chauffeur de camion UPS, a dit avoir vu Marjorie et Bill Rostin ensemble le jour du cambriolage. Ils étaient au dépanneur les deux, le dépanneur d'où provenait l'appel de la commande de pizza. Le jour même, le 28 août 2003, le témoin se rappelle dur comme fer que c'était Bill à côté de la cabine téléphonique à cause de la salopette.
C'est fort.
Encore une fois, Marjorie admet, mais la raison de sa présence n'a aucun lien avec l'histoire de la bombe, bien sûr. Le FBI s'est mis à parler à des colocataires de prison, c'est de cellules, de Marjorie. Une des filles de la prison, là, elle a écrit des pages de notes tellement Marjorie disait plein d'affaires incriminantes. Je vais vous en lire quelques parties des choses que sa colocataire de cellule a écrit de ce que Marjorie a dit. Marjorie aurait admis que le meurtre de Brian Wells était connecté avec celui de James Roden, le corps dans le congélateur, son chum. Puis elle a dit avoir tué James Roden en prison. Jusque-là, elle avait toujours nié. Parce que sinon, lui, il allait ouvrir sa trappe à propos du plan de la bombe.
Oh. Okay.
A dit Marjorie que Bill Rustin aurait construit le collier explosif. C'est lui qui l'aurait fait.
Ça fit.
Ouais. Puis a dit aussi que Floyd Stockton, lui qui habitait chez Bill puis qui était recherché pour un viol, était impliqué. Mais la pire affaire que Marjorie aurait supposément dit à sa colocataire de cellule, c'est qu'en parlant de Brian Wells, Marjorie aurait dit « C'est pas comme si on n'avait pas mesuré son coût pour le collier. » Puis elle s'est mise à rire.
Attends un peu, fait qu'il connaissait le gars.
Ouais. Ah, c'est comme si Brian était au courant.
Ben là, peut-être, okay, que c'était, ouais, je comprends. Peut-être que c'était un ami, puis qu'ils ont dit « Hey, t'as demain, t'es fin, je vais t'offrir un collier, je vais mesurer ton cou. »
Ouais.
Non?
Non, peut-être, tout est possible.
Il y a un autre homme qui a attiré l'attention des policiers et du FBI. C'est un ami de longue date de Marjorie qui s'appelle Kenneth Barnes. Je vais l'appeler Ken. C'est un vendeur de crack qui se donnait lui-même le glorieux surnom de « Cocaine Ken ».
Yeah!
Ça brosse. Ça fait un bon nom de rappeur. Là.
Le FBI découvre que Brian Wells et Kenneth Barnes, il y avait une amie en commun. C'était une prostituée qui s'appelait Jessica Upsick. Jessica appréciait les saveurs du crack que Ken Barnes vendait. Pour le payer, Jessica prenait l'argent que lui donnait Brian Wells pour leur relation sexuelle. C'était comme un échange de services. C'était rendu au point où Brian Wells et Jessica consommaient leur corps ensemble chez Ken Barnes. Après ça, elle montait l'escalier. Puis il donnait l'argent, tu sais. Tu comprends?
C'était une chaîne.
C'est comme, okay, rendu une chaîne.
Ça. Lui, le Wells payait Hoopsick, puis elle, après ça, elle montait s'acheter du crack direct. Puis,
ouais. Ouais. Fait que dans le fond, c'est comme si quasiment Brian payait Ken.
Ouais, c'est ça. Il aurait pu.
Il aurait pu juste faire ça, dans le fond, en tout cas. Regarde. Le FBI a essayé d'entrer en contact avec Jessica, mais elle voulait rien savoir de parler avec eux autres, puis elle était dans ses droits. Ils mettent leur énergie d'abord sur Ken Barnes. Ken Barnes, il y avait des potins en masse. Il était déjà en prison pour possession de drogue. Fait qu'ils ont réussi à comme dealer des petites affaires avec. Tu sais, dis-nous en plus sur cette histoire-là, là, du cambriolage, puis James Roden, n'importe quoi. Puis hop, peut-être qu'on va pouvoir te faire un petit deal. Fait qu'il vide son sac. Le 9 décembre 2005, Ken Barnes avoue avoir eu un rôle à jouer dans le cambriolage de la banque. Le 27 mars 2007, Floyd Stockton, le violeur qui habitait chez Bill puis qui est parti, blablabla, il avoue aussi avoir été complice. Puis voilà la description de ce qui s'est passé le 28 août 2003, selon Ken Barnes puis Floyd Stockton.
Cocaine gang.
Ken Barnes a dit que c'était Marjorie le cerveau derrière tout ça. Floyd Stockton aurait commencé à construire la bombe à la demande de Bill, mais il n'aurait vraiment pas été bon pour faire la bombe, fait que Bill Rustin y a pris le relais. Marjorie a fourni les deux minuteurs. Elle avait même avoué quelques mois plus tôt, mais elle disait pas savoir que c'était pour une bombe.
Minuteur Sunbeam.
Donc, les gens qui étaient impliqués, en plus de Ken Barnes, Cocaine Ken, le vendeur de crack, il y avait Floyd Stockton, le petit violeur pourri qui avait des cheveux, Marjorie Dill Armstrong, la femme cerveau de l'affaire qui a des yeux fous puis qui chauffe à l'envers dans le trafic.
Mm-hmm.
Il y avait Bill Rustin, la salopette condescendante.
Mm-hmm.
Il y avait Robert Pinetti, le deuxième livreur de pizza qui est mort d'overdose. Mais on le sait bien que c'est bien trop louche pour que ce soit rien qu'une overdose. Puis il y avait Brian Wells.
Tous ces gens-là seraient impliqués. Mais Brian Wells, il considère comme impliqué comme étant complice. Ou victime?
Complice.
OK.
C'est eux qui ont dit ça, là.
Facile à dire quand la victime est morte.
Oui.
Le jour où la bombe a explosé, Marjorie s'est pointée chez Ken vers midi. Elle lui dit que c'est aujourd'hui le vol de banque. C'est là que ça se passe. Lui, il est genre « Wow! » Ken Barnes, il demande « Il est où ton chum, James Roden, le gars dans le congélateur? » Parce que c'est lui qui était supposé être le chauffeur. Marjorie, elle répond que James est malade. Il avait la grippe, mais dans le fond, il était dans le congélateur. Ken Barnes, Cocaine Ken, puis Marjorie, part en char, s'en va au Shell. Bill les a rejoints avec sa salopette, puis il a fait l'appel à la pizzeria Mamma Mia's. Là, on repart du début, on fait un full circle. Ils sont rendus au site des tours radio, rejoindre Brian Wells. Ils attendent qu'il arrive. Ceux qui étaient impliqués, ils étaient présents sur place, le petit groupe que j'ai énuméré tantôt. Brian y est arrivé. Il attendait d'avoir son argent pour la pizza. Floyd Stockton y est arrivé avec le collier explosif dans les mains. Puis là, Brian l'a vu puis s'est mis à courir pour se sauver. Ken Barnes, il l'a attrapé puis a frappé Brian Wells. Bill Rustin, pas rapport, sort son gun puis pow, il tire dans les airs. Aucun rapport. Il voulait faire son show. Marjorie et Floyd Stockton lui ont mis le collier autour du cou à Brian Wells.
Clairement, si Brian a essayé de se sauver, quand il a vu le collier, la bombe, il savait sûrement c'était quoi. Parce que moi, je vois une boîte carrée, là, puis un gars qui arrive avec une petite boîte carrée, je pars pas à course.
Mais t'es, en même temps, tu viens livrer de la pizza, il y a une gang de durluberlu qui arrive avec genre du stock weird. Tu fais comme, qu'est-ce qu'ils voulaient, si je décalisse, tu sais.
Bon point.
Sûrement qu'ils ont dit quelque chose en même temps, puis c'est ça qui l'a fait paniquer. Mais quand, en tout cas, quand ils ont mis le collier autour du cou, Marjorie puis Floyd Stockton, Brian Will disait, je veux pas faire ça, je veux pas faire ça.
Il savait, là.
C'est ça.
Moi, je suis un peu partagée, mais je vais vous expliquer après pourquoi.
Ouais.
Eux, ils veulent vraiment garder l'histoire de non, il était dans l'histoire puis il savait. Ma phrase n'était pas forte, mais on s'est compris pareil. Marjorie, c'est elle qui lui a mis le t-shirt blanc qui était écrit Guess dessus pour cacher la bombe. Puis elle lui a dit, si jamais tu te fais pogner, dis-leur que c'est des hommes noirs qui t'ont attaqué pour brouiller les pistes.
Mm-hmm.
Ils ont donné le fusil à pompe qui était une canne, puis sont toutes partis chacun de leur bord. Ken Burns puis Marjorie se sont parqués dans le stationnement d'un commerce en face de la banque. Puis, ils ont regardé la banque avec des jumelles pendant que le cambriolage avait lieu. Jusqu'à ce qu'ils ont vu Brian Wells sortir de la banque, puis que des polices se sont mis à arriver, puis sont partis chacun de leur bord. Ken Burns a dit qu'il est arrivé chez lui un peu plus tard, puis qu'il a vu que Brian Wells était mort aux nouvelles. Il s'est senti mal parce qu'il a dit que la bombe n'était pas supposée être vraie.
Oh!
OK.
Il dit, Ken Burns, que c'est Marjorie puis Bill, sûrement qu'à la dernière minute, ils ont décidé de rendre ça réel pour être sûr d'éliminer un témoin.
Ouais.
Parce que c'était pas supposé être une vraie bombe. C'était pour faire peur à Brian, mais là, c'est Brian ouais. Ouvrant. En tout cas, peu importe.
Et Noé Marjo a l'air d'être capable.
Fait qu'il y a beaucoup de questions qui ont été répondues grâce à Ken Burns puis Floyd Stockton qui ont confessé. Mais le plus intéressant, c'était le motif. Là aussi, là, c'est une autre histoire de fou. Marjorie voulait faire tuer son père. Puis, ça se connecte tout, là. Elle aurait demandé à Ken Burns de le faire pour elle. Puis, quand elle a demandé ça, Ken Burns a répondu « Ouais, ouais, paye-moi le quart d'un million, là, 250 000, puis je le fais. » En niaisant. 250 000, c'est le montant qui a été demandé à la banque. C'est comme ça que l'idée est venue, l'idée de cambrioler la banque pour Marjorie, pour qu'elle puisse payer Ken, que Ken tue son père. Mais pourquoi elle veut tuer son père? Marjorie est en prison, sa maison elle a été vidée puis ses choses ont été transférées au FBI. Après avoir fouillé pendant des heures dans ses cochonneries, ils ont trouvé une lettre adressée au gérant d'une banque, mais pas n'importe quelle banque, à la banque PNC, celle que Brian Wells a cambriolée. La lettre écrite par Marjorie, c'était pour exprimer son mécontentement. J'aurais été en crise pour les envoyer fuir. Parce que la banque aurait autorisé le père à Marjorie de vider le contenu d'un coffre-fort, puis dans sa tête à elle, le contenu du coffre-fort aurait dû être à elle. Fait que là, elle voulait envoyer chez la banque. Fait qu'en faisant faire le cambriolage avec Brian à la banque, c'est une manière de se venger, puis de retrouver l'argent perdu que son père avait retiré. Je sais pas si vous comprenez.
Ouais, ouais. Mais dans le fond, c'est. Ouais. C'est pas le même montant. C'est pas de 250 000, dans le fond.
Ben, elle avait demandé 250 000, mais le montant qu'il y avait dans le coffre-fort, bon, on sait pas.
Okay, c'est ça.
Malgré les informations apportées, ni Ken Burns ni Floyd Stockton pouvaient dire pourquoi Robert Pinetti était là. T'sais, c'est un collègue de Brian en plus. Personne ne pouvait dire qui a construit la canne fusil à pompe, c'est sûrement Bill, mais personne ne pouvait le confirmer. On sait pas qui a 100% construit la bombe. Moi, je pense que c'est Bill, là, mais en tout cas, pourquoi Brian Wells? C'est une question qui reste toujours sans réponse. Puis, Brian Wells, ben, c'est un autre suspect. Parce que tout le monde dit, le monde des co-conspirateurs qui sont encore en vie disent qu'il était au courant. Il y a un témoin qui dit qu'il avoir vu Brian Wells quitter la maison de Bill Rustin le jour avant le cambriolage. À part un témoin oculaire, il n'y a pas d'autres preuves contre Brian. Mais on se souvient que pendant le cambriolage, il n'avait pas l'air nerveux pantoute puis il suçait son dessus-son.
Ouais, d'après moi, là, il pensait que la bombe, c'était pas une vraie. Lui.
Ouais, ben c'est ça. C'est pour ça qu'il n'était pas nerveux, exact. Mais là où moi je boxe, c'est pourquoi il aurait fait tout ça si tout le monde le savait. T'sais, pourquoi se faire un scénario de film entre eux autres pour aller voler la banque, là?
Ouais.
Faire comme si... Ouais. Non, je comprends que peut-être ça lui donnait une porte de sortie, le gars, s'il se faisait pogner, mettons, ben, oh, c'est pas moi, c'est une gang, puis genre,
Je pense vraiment que c'est la porte de sortie.
C'est un peu fucked up, là, quand même. Là.
C'est sûr que le vol de banque, il allait pas marcher, là.
Non, mais c'est ça, c'était sûr que ça allait pas marcher. C'est...
Ouais, mais c'est pour qu'il soit la victime qui enlève le collier si elle avait pas vraiment été une bombe. Puis le fait comme, oh, j'ai été attaquée, avez-vous trouvé mes assaillants, genre? Puis, tu sais, il y aurait sûrement eu sa cote aussi là-dedans.
Ouais,
là.
C'est clair.
En même temps, ils ont viré ça en chasse au trésor. L'avantage de dire que Brian avait un rôle dans tout ça, puis qu'il soit pas une victime, c'est qu'à ce moment-là, sa mort serait pas un meurtre aux yeux de la justice.
Ah.
Personne peut être condamné si c'est pas un meurtre.
Mm-hmm.
Tout le monde impliqué, qui n'étaient pas des gens bêtes. Mais en prison, peu importe, ils s'éviteraient tous la peine de mort en faisant ça. Marjorie, Ken Burns, Cocaine Ken, puis Floyd Stockton, le violeur. Ce serait tout éviter ça. Jessica Opsik, la femme qui échangeait ses services contre la drogue, là, vous vous en rappelez?
Oui.
A dit que non, Brian n'était pas au courant de rien. Elle a admis que c'est elle qui a présenté Brian Wells à Ken Burns, Marjorie, Bill Rustin et Floyd Stockton. Fait que c'est un peu de sa faute à elle.
Pauvre homme.
Ouais. Fait qu'en conclusion, mettons ce qui s'est passé après que Brian Wells a été jugé comme conspirateur non inculpé. Parce qu'ils ont jugé qu'il était dans le coup mais il peut pas être inculpé parce qu'il était mort. Floyd Stockton a eu le droit à l'immunité parce qu'il a témoigné contre Marjorie. Bill Rothstein étant mort, il a eu le droit à un même titre que Brian Wells, conspirateur non inculpé. Puis le 3 septembre 2008, Kenneth Burns a plaidé coupable de complot en vue de braquer une banque et de complicité et a été condamné à 45 ans de prison. Puis il est mort en prison le 20 juillet 2019. Puis Marjorie. Sacré Marjo! Son procès a eu lieu le 15 octobre 2010, 7 ans après le cambriolage. C'est long.
Mm-hmm.
Il n'a jamais accepté aucun blâme dans rien, autant pour James Roden que pour Brian Wells. Après 20 jours de témoignage puis un jour et demi de délibération, le jury donne le verdict que Marjorie D. Armstrong est coupable de vol de banque à main armée puis de complot en vue de commettre un vol de banque à main armée. Elle a été condamnée à la prison à vie plus 30 ans. Puis quand Marjorie a entendu ça, là, son verdict, dans le tribunal, elle s'est tournée vers son avocat puis elle a dit « T'as pas fait ta job!
» <Cool.
rire> ouais. Marjorie est décédée en 2017 du cancer du sang.
C'est ça. Fait que là, ça finit de même. Là.
Ça finit de même.
Ça finit de même.
Tu sais, c'est pas résolu, mais on le sait très bien ce qui s'est passé. Là. On le sait que c'est Marjorie puis sa gang.
Oui, ben c'est ça. C'est quand même clair. Ce qui reste whack, c'est...
C'est les motifs.
Ouais, c'est ben, les motifs puis le Brian Wells. Que,
pourquoi lui?
Savais-tu pas? Pourquoi qu'il aurait fait une vraie fausse bombe? T'sais, pourquoi toute la patente?
Quand dans
il aurait
fond...
pu juste dire au gars garante, donne-y le papier, sort, puis datit.
Mm-hmm. Oh oui, je pense qu'ils se sont craqués toi, gang, là.
Mais la prostituée, elle l'a amené dans cette gang-là tout croche, puis il était naïf, comme tu as dit au début.
Ouais.
Fait que là, ils ont fait « Ah, on va prendre lui, là, c'est facile, puis on l'appelle à PIDS, puis il va venir, puis on lui fait un guet-apens. »
Ben, ouais. Fait que tu penses qu'il savait, mais il savait pas, genre? Il connaissait ce monde-là mais complètement.
Je pense juste qu'il savait là, à qui il avait affaire. Puis quand il les a vus sortir du char, il a dit « Ok, il voulait pas de la pizza.
Ouais, » les autres.
Je me suis fait avoir.
Il savait que c'était pas bon, mais il savait pas que ça s'en venait. Puis là, ils ont dit « Inquiète-toi pas, c'est pas une vraie bombe au pire. »
Ouais.
Mais peut-être qu'ils ont demandé. Il a dit non. Puis à un moment donné, ils ont fait le coup. Parce que tu sais, en même temps, fou. Ça aurait pu ne même pas être lui qui part à sa commande. Mais peut-être qu'il savait son horaire de job, je sais pas.
Au début, t'as dit, tu sais, il a appelé à la pizzeria, là. Puis l'autre gars, il comprenait pas. Là. Puis là, il l'a passé à lui.
Ouais.
Puis lui, il l'a compris tout de suite. Fait qu'il savait c'était qui, probablement, quand il a répondu au téléphone, il a dû le reconnaître.
Ouais, puis si bien encerclé tout radio,
c'est ouais, c'est ça. Puis il devait bien se douter qu'il savait que lui, il habitait probablement là. Le Bill, là.
Ah ouais, parce que c'était le voisin,
Il devait savoir que. La raison pourquoi il savait que c'était ça, probablement, c'est qu'il était allé chez lui avant. Puis il habitait à côté.
Ouais.
Ouais, mais moi, je pense pas que quand il a fait sa run de pit, il savait qu'il allait aller chez les tout croches.
Non, mais...
Il a juste dit « Ah oui, ça, je connais le coin », puis il est parti.
Tu penses?
Il était naïf.
Peut-être. C'est ça. Je sais pas. Mais tu sais, c'est un crise d'adon que eux ils appellent à PIDS, l'autre gars répond, il comprend pas, puis il passe à lui.
Ouais, mais c'était justement pour le faire passer
mais
à
en
l'autre.
En même temps, Robert Pinetti, l'autre livreur, il travaillait pas parce qu'il était là-bas. Fait que ça avait pas le choix d'être Brian Wells. Pensez que Brian Wells, oui ou non, il était dedans. Ma phrase est tellement botchée.
Moi, je pense qu'il savait un peu ça sur quoi il travaillait, on va dire, la gang de tout croche, mais il pensait pas qu'il allait finir par être impliqué. Puis ils lui ont fait un guet-apens, comme je dis. Puis là, ils ont dit, ben finalement, tu vas le faire pour nous. Puis il a fait, oh, OK.
Mais on va dire qu'il était au courant de l'histoire, il avait accepté contre une cote d'argent. Mais en le tuant, en mettant une bombe quand c'était pas supposé être une bombe, ben oh, ta cote, ils ont plus besoin de se donner.
Ah, c'est clair.
Rien n'est blanc ou noir.
Ça, c'est parce que les motifs, c'est tellement une gang de fuckés que les motifs pour nous feront jamais de sens.
C'est ça.
Mais je pense que le principal, c'est l'argent. Ah, peu importe, ils l'ont choisi, là. Qu'il était au courant ou pas, ils l'ont choisi à lui. Parce que c'est un gars tout seul, célibataire. Ils ont fait, ah, c'est facile.
Ouais, exact.
Eh ben.
Une histoire de fou.
Mais c'est bien intéressant, par contre. Mais c'est comme deux en un, c'est pour ça.
Ben oui, c'est entremêlé. Ouais, allez écouter le documentaire, laissez-nous des commentaires de ce que vous pensez. On aime ça avoir du feedback.
Ben oui.
Yo, bonne soirée.
Bonne soirée.
Hey, bonsoir.
Bye bye.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99-cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.